et donne à présent la parole, Son Excellence, Frank-Walter Steinmeier, ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne.
Verehrter Herr Präsident, Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren,
Excellences, chers collègues, 2014 est une année spéciale pour les Européens, une année de commémoration. Il y a 100 ans, la diplomatie européenne a échoué et le monde a plongé dans la Première Guerre mondiale. Il y a 75 ans, l'Allemagne a attaqué son voisin, la Pologne, faisant sombrer le monde dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 25 ans, le mur de Berlin est tombé, mettant fin à une division longue de plusieurs décennies entre l'Orient et l'Occident. Cela dit, mesdames et messieurs, regarder en arrière et se souvenir ne suffit pas en cette année de commémoration. Nous devons, au contraire, nous poser la question de savoir ce que nous avons appris du passé. L'enseignement le plus important du passé a été la création des Nations Unies, car les Nations Unies incarnent l'espoir de paix. Un espoir qui découle d'une idée aussi simple qu'elle est révolutionnaire. La paix dépend des règles que nous allons imposer pour le monde, pour remplacer le recours à la force par la force du droit. La paix, grâce à la résolution des conflits à la table des négociations et non pas sur un champ de bataille. La paix est possible si nous renonçons progressivement à la logique cynique de la violence. Les Nations Unies aujourd'hui sont le fondement même de cet espoir de paix. C'est le symbole de l'universalité de cet espoir. Le caractère universel des Nations Unies est aujourd'hui menacé par les fantômes du passé et par de nouveaux démons aussi. En 2014, le monde semble sombrer dans le passé et les crises sont multiples. Voilà pourquoi nous devons aujourd'hui insuffler de l'espoir dans cet appel à la paix. L'espoir demeurera un simple espoir, un objectif inaccessible si les États ne sont pas vraiment préparés à assumer leurs responsabilités. Les Nations Unies ne constituent pas aujourd'hui un simple forum pour renoncer à nos responsabilités. C'est par les Nations Unies, au contraire, que nous devons assumer ces responsabilités. L'Allemagne est aujourd'hui bien préparée à assumer ses responsabilités tant à l'intérieur des Nations Unies qu'avec les Nations Unies. Tout d'abord, nous avons une responsabilité assumée à l'égard des personnes qui souffrent le plus de ces crises. Le mois prochain, l'Allemagne accueillera une conférence à Berlin pour mobiliser l'assistance humanitaire nécessaire aux millions de réfugiés syriens. Mon pays va jouer son rôle et j'espère vraiment que d'autres aussi suivront cet exemple. C'est d'abord les voisins de la Syrie qui doivent apporter leur soutien. Et d'ailleurs, ils font un travail remarquable. Mais ces pays sont aussi soumis à des pressions terribles à la suite de l'afflux de personnes déplacées venant de Syrie. L'épidémie à virus Ebola fait rage aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. C'est une cause de souffrance et de mort pour des familles entières. Le virus met en danger la cohésion de société entière. Voilà pourquoi nous envoyons une assistance humanitaire et médicale par voie aérienne dans cette région. Je suis ravie de voir que de nombreux volontaires dans mon pays ont répondu à l'appel en disant qu'ils étaient prêts à aller sur le terrain pour apporter leur aide. Outre cette solidarité immédiate, cependant, il nous faut prendre un engagement sur le long terme. Nous avons besoin de l'expertise et du savoir-faire de l'OMS. Et des Nations Unies sur le long terme pour renforcer les systèmes de santé dans les États. Et l'Allemagne continuera à contribuer à ces objectifs. Nous ne pouvons pas, bien sûr, ramener à la vie ceux qui sont morts, mais nous pourrions peut-être empêcher d'autres personnes de mourir, personnes qui pourraient être traitées aujourd'hui. Et nous devrions aussi faire en sorte que la prochaine épidémie n'ait pas des répercussions aussi meurtrières. Monsieur le Président, si nous voulons vraiment nous acheminer vers la paix, nous devons prendre des mesures telles que l'engagement d'individus, la diplomatie bilatérale et des initiatives régionales. Ce sont des petites mesures, mais aucune d'entre elles ne peut remplacer les Nations Unies, car seule l'ONU peut apporter le fondement universel à l'espoir de paix. Et ce fondement, c'est la loi, le droit international auquel nous avons tous adhéré, droit qui appartient à la communauté des nations. C'est ce droit que nous devons préserver. C'est ce qui se situe au cœur de notre espoir de paix. Voilà pourquoi je dois aujourd'hui aborder le conflit qui sévit en Ukraine aujourd'hui. Certains ici pourraient considérer ce conflit comme un conflit régional en Europe orientale, rien de plus. Mais je suis convaincue que c'est une vision erronée de la situation. En effet, c'est un conflit qui touche tout un chacun. Monsieur le Président, c'est un conflit dans lequel un membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie, en annexant la Crimée, a modifié de façon unilatérale les frontières existantes en Europe, violant ainsi le droit international. Nous devons faire quelque chose contre ce signal dangereux, car nous ne pouvons pas laisser le droit international être foulé aux pieds de l'intérieur. Nous ne devons pas laisser les anciennes divisions qui existaient entre l'Est et l'Ouest réémerger au sein des Nations Unies. Beaucoup est en jeu dans ce conflit, non seulement pour le peuple ukrainien, mais aussi pour l'avenir même du droit international. Voilà pourquoi l'Allemagne et ses partenaires ont décidé d'assumer leurs responsabilités et se sont engagés avec vigueur à désamorcer le conflit. Je ne me fais pas d'illusions, Monsieur le Président. Une solution politique n'est pas envisageable aujourd'hui. Cependant, il y a quelques semaines, nous étions au bord de la confrontation militaire directe entre les forces armées ukrainiennes et russes. Et je me réjouis de dire aujourd'hui que c'est grâce à la diplomatie que nous avons évité le pire. Aujourd'hui, la priorité doit être de faire en sorte qu'un cessez-le-feu pérenne soit signé pour parvenir à une solution politique, une solution fondée sur les principes des Nations Unies et une solution qui permettrait de préserver l'unité de l'Ukraine. Monsieur le Président, il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine. Tant que ce conflit se prolongera, tant que la Russie et l'Occident seront en désaccord sur l'Ukraine, cela menacera de paralyser les Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit pouvoir agir et doit vouloir agir pour s'atteler à des tâches nouvelles et sur le long terme plus importantes encore. Car le monde aujourd'hui en 2014 est hanté par le fantôme de la division, mais par de nouveaux démons aussi. Nous sommes tous aujourd'hui choqués par la brutalité innommable des terroristes qui perpètrent les crimes les plus abominables au nom de Dieu. Ma question est la suivante. Ne devrions-nous pas être particulièrement inquiets du fait que des prêcheurs de haine sont aujourd'hui en train d'attirer des jeunes dans leur filet, des jeunes qui ont grandi au sein même de nos sociétés? Voilà pourquoi aujourd'hui, celui-là aussi n'est pas un conflit régional. Ce n'est pas un problème qui concerne uniquement l'Irak ou la Syrie ou l'Afrique, là où les terroristes, bien sûr, bafouent les droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles. C'est une barbarie qui nous vise tous, qui vise tout ce pourquoi les Nations Unies aujourd'hui existent, tout ce que nous défendons aux Nations Unies. Voilà pourquoi notre réponse doit aller bien au-delà. de la riposte humanitaire et militaire immédiate. L'Allemagne apporte une contribution considérable à ces ripostes, notamment sur le point du point de vue militaire. Mais tout ceci doit être ancré dans une alliance politique contre le terrorisme de l'EIL. Mon pays est très attaché à cette alliance et j'espère vraiment que les sociétés du Moyen-Orient adhéreront à cette alliance en prenant conscience que leur sécurité n'est pas le seul enjeu dans cette crise. Monsieur le Président, dans ce monde hanté par de nouveaux démons et par de vieux fantômes, nous devons être capables, d'une part, d'œuvrer pour des solutions politiques en Ukraine, au Moyen-Orient, en Syrie, tout en étant en mesure de nous atteler aux défis gigantesques que recèle le XXIe siècle. Et je fais ici référence à la lutte contre le changement climatique. L'Allemagne en effet contribue à hauteur de milliards de dollars au Fonds climatique vert. Nous allons appuyer notre partenaire indéfectible, la France, pour que le sommet climatique en 2015 soit un succès et qu'un accord climatique contraignant soit enfin signé. Et je parle aussi de l'ère numérique. L'Internet devrait, selon nous, être un espace libre, ouvert et sûr. C'est une question qui concerne bien sûr les institutions étatiques et les grandes entreprises. Mais il faut aussi que les sociétés puissent façonner cet espace mondial, libre, ouvert et sûr. Si nous n'agissons pas, les possibilités technologiques immenses effaceront la dimension humaine. Voilà pourquoi nous avons besoin aujourd'hui d'une législation internationale pour le monde numérique. Et d'ailleurs, la proposition que nous avons présentée avec le Brésil marquera un début dans cette phase. Je fais également référence au programme de développement de l'après 2015. Pourquoi ? Parce que la lutte contre la pauvreté commence par la question suivante. Comment créons-nous de la valeur ? Comment créons-nous de la prospérité ? C'est une question que nous ne posons pas seulement aux quelques pays qui ont besoin de pays. C'est un appel au monde entier en vue de stimuler une activité économique plus durable. L'Allemagne, en assurant la transition vers les énergies renouvelables, a ouvert la voie un cheminement qui ne sera certes pas facile, mais qui est indispensable aujourd'hui si nous voulons préserver nos ressources naturelles. Alors que nos ressources sont limitées, l'eau et les terres arables sont limitées, et cela pourrait devenir le principal conflit du XXIe siècle. Nous devons l'éviter à tout prix. Monsieur le Président, chers amis, excellences, c'est à l'aune de ces tâches, de ces missions qui sont devant vous, que nos enfants nous jugeront. Ils regarderont en arrière, tout comme nous le faisons aujourd'hui, en cette année de commémoration. Les Nations Unies ont été créées à la suite des deux grandes guerres mondiales. C'était la preuve que nos pères avaient appris la leçon de ces guerres. Si nous voulons marcher dans leurs pas, si nous voulons maîtriser les tâches qui nous attendent, nous devons développer cette institution. L'ONU n'est pas un produit fini. L'ONU doit évoluer, y compris le Conseil de sécurité, pour refléter le monde d'aujourd'hui. J'aimerais conclure, mesdames et messieurs, chers collègues, en disant ceci. Je crois que l'ONU mérite tous nos efforts, car c'est grâce aux Nations Unies que le monde pourra vivre en paix, dans le respect de l'ordre juridique. Mon pays, et nous vous le prouverons, jouera le rôle qui est le sien pour que cet espoir devienne réalité. Nous le ferons pas à pas. Merci.
I thank the Minister of Foreign Affairs of...
Je remercie Monsieur le Ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne.